Bonjour, je suis en compagnie de l'artiste Alain Buplex. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes en direct du CCOD devant l'œuvre Un paysage américain générique qui sera exposé. Vous pourrez la visiter du 5 octobre jusqu'au 8 mars 2020. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu nous proposer dans cette composition? Depuis les années 90, vous développez des œuvres gigantesques, fiction profondément ancrée dans le réel. Et là, c'est plus inspiré d'un film.
Oui, là, il s'agit d'une salle de cinéma qui est dédiée à la projection d'un dessin animé qui est basé sur un film qui est très connu et qui fait l'actualité une fois encore en cette fin d'année. Il s'agit de First Blood, donc le premier opus de la série des Rambo. Un film tourné avec Sylvester Stallone par un chef opérateur, enfin un réalisateur, co-chef, qui est un film donc, que tout le monde connaît et qui m'avait intéressé, au-delà de l'action et du caractère du héros, qui m'avait intéressé par son atmosphère et l'ambiance en fait, des paysages dans lesquels se déroule le film. Et le dessin animé est réalisé d'une certaine manière pour vérifier une intuition. Qui est que le paysage dans Rambo est un des acteurs principaux du film.
Et ça fait partie de vos formats, de vos plateformes, la voiture, le voyage, les modules de chantier, l'architecture intérieure.
C'est vrai, le paysage et la construction, d'une manière, le faire, en fait, la manière dont les humains habitent la Terre, c'est une chose qui m'intéresse depuis toujours, je pense. Mais le paysage aussi comme approche que nous avons du réel, tous collectivement. Donc là, il s'agit du paysage nord-américain, mais aussi parce que je crois que quand on parle de paysage, plusieurs cultures sont inévitables. Il y a évidemment la France, qui est un des pays du paysage, le Japon et les États-Unis, qui sont les grandes cultures paysagères, on va dire. C'est-à-dire les lieux dans lesquels les rapports avec le paysage sont très étroits.
Et vous considérez... urbaniste, utopiste, chercheur, voyageur, avec ces fresques-là.
J'aurais tendance à dire voyageur, en fait, mais un genre de voyageur un peu particulier. C'est-à-dire, je me qualifierais pas de voyageur au sens où on l'imagine comme une sorte d'aventurier. Moi, je suis un touriste plutôt. La figure du touriste est souvent décriée et je trouve qu'à l'inverse, elle est intéressante. Un touriste, c'est quelqu'un qui cherche à faire concilier en fait ce qu'il voit avec ce qu'il sait. Le touriste se déplace dans un paysage avec des cartes postales, des guides, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on sait. C'est-à-dire, ce sont des images, des textes, des choses qui sont écrites. On sait un certain nombre de choses et on va voir dans le paysage ces choses-là en trois dimensions et on va mettre en relation le visible et le savoir. Et ça, c'est pas une chose anodine, c'est pas une chose facile à faire non plus. Elle est exigeante, elle demande du travail avant et après et pendant, et c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc oui, j'aimerais bien, si on devait me qualifier en particulier, d'être qualifié de touriste, à ce sens-là, ça me conviendrait tout à fait.
Alors cette exposition-là a fait travailler plusieurs corps de métier. Vous êtes l'artiste, le concepteur, mais beaucoup ont mis la main à la pâte.
Oui, c'est-à-dire quand on réalise une installation de cette ampleur-là, donc on est dans une salle qui est assez grande et elle est entièrement occupée par l'installation, effectivement, beaucoup de gens participent. Donc il y a des peintres, il faut peindre la fresque, construire le plan incliné, construire toute la salle de cinéma. Donc c'est des charpentiers, des menuisiers, des installateurs. On a une attachée d'exposition, c'est-à-dire quelqu'un qui dialogue avec moi continuellement pour vérifier et pour... qui échange continuellement sur le caractère de la proposition, le caractère artistique de la proposition. On a une architecte qui est la responsable de la régie ici, donc qui fait les plans, vérifie que tout est parfaitement constructible. Et puis aussi qui met en œuvre tout l'ensemble. Il faut avoir les matériaux au bon moment, les collaborateurs qu'il faut au moment où il faut, etc. Donc ça, c'est le travail d'Amandine Minéo. C'est crucial. C'est-à-dire, on n'a pas 5 ans pour fabriquer tout ça. On a 4 semaines. Donc il faut se réunir en 4 semaines, avoir tous les matériaux et tout faire. Elodie Strucken, donc qui a travaillé avec moi sur l'exposition, rend les choses possibles. Et Amandine les fabrique derrière avec toute l'équipe. Donc oui, on est nombreux. Et le film, dans lequel on a un animateur, donc moi qui ai fait tous les dessins, un animateur qui met ses dessins en mouvement, et un musicien, enfin un musicien sonorisateur en fait, parce qu'il fait à la fois les musiques et les sons. Les sons sont très discrets, on ne les remarque pas, et c'est leur qualité, mais le film est sonorisé par des bruits naturels dans toute sa durée. Donc on a des bruits d'eau, de vent, des bruits d'oiseaux, de voitures qui roulent, etc. Et un son qui a été créé, qui accompagne le film, qui le rend regardable. En fait, le film parfaitement silencieux et sans cette musique ne serait pas regardable. Il devient regardable et en même temps, le son construit une histoire qui nous permet de nous échapper du film originel un petit peu, tout en restant dans les mêmes décors. Donc on est à la fois très proche et en même temps, on s'éloigne à certains moments du film originel. On a des sentiments qui ne sont pas exactement les mêmes.
C'est l'atmosphère, vous avez voulu...
C'est l'atmosphère, mais je crois aussi que c'était quelque chose qui était dans le film, mais resté caché et invisible. Je crois que ce film Rambo, et quand on le revoit après avoir vu le dessin animé, on commence à s'en apercevoir, est aussi une grande fable écologique. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. La décision de faire de montrer un film dans la nef, en sachant que la nef doit être ouverte et jamais fermée, il y avait une sorte d'écart à jouer, et donc tout se joue aussi dans cet écart-là. Donc il y a à la fois un film, et ensuite on fera le tour du dispositif qui permet d'avoir à la fois une salle ouverte sur la ville, éclairée et lumineuse, et en même temps un film dans le même espace et dans un ensemble qui soit à peu près cohérent, enfin, totalement cohérent. Donc c'était une des grandes difficultés du travail pour nous tous, d'arriver à concevoir et à mettre en œuvre. Enfin, la première partie de ce film existait depuis un an, c'est-à-dire quand on s'est rencontrés avec Alain-Julien Laferrière autour de la première partie des 10 premières minutes du dessin animé réalisé, qu'on a décidé de faire cette installation. Dans le cours de l'année, on a conçu l'installation et j'ai réalisé 10 minutes de plus. Donc on a un film plus complet et qu'on montre pour la première fois ici. L'installation, elle est conçue pour cette salle de manière totalement spécifique et particulière. C'est-à-dire qu'elle tient compte des caractéristiques du lieu, du programme déjà du CCC, de cette volonté d'avoir une salle ouverte sur la ville, mais aussi des caractéristiques de l'espace lui-même, ses entrées, ses sorties, ses différents points de vue. Et on a joué en fait avec tous les points de vue possibles de la salle. Donc l'entrée par la porte principale, la vue qu'offre l'atelier des pédagogiques, je pense que vous connaissez déjà, celle du restaurant, et puis toutes les baies vitrées qui toutes offrent quelque chose de particulier. Donc ce que je vous invite à faire, c'est avoir une expérience qui est particulière en fait, puisque normalement le film tourne en boucle. Donc le public, lui, arrive dans la salle, le film est en cours, et pour le voir en entier, il le voit une fois et demie d'une certaine manière. Pour vous, on va le démarrer au début. Donc il est un peu long, 18 minutes, Mais il est un peu long, mais il constitue malgré tout une narration. Donc il faut souffrir les 18 minutes. Voilà, je suis désolé. Il y a des moments ennuyeux, il y a des moments qui le sont moins. Il y a un suspense, vous verrez, il y a de la tension, il y a beaucoup de choses comme ça. Je vous dis quelques mots de ce film très rapidement. Donc il est basé, il est construit à partir d'un film très connu. Alain vient d'en parler, c'est First Blood. Le premier épisode des Rambo, donc, qui a été présenté au début des années 80 et que j'ai vu un peu tardivement, peut-être à la fin des années 80, et qui m'avait frappé par son atmosphère, en fait. C'est vrai qu'il y a l'histoire du soldat qui du héros américain qui revient du Vietnam. Vous connaissez tous plus ou moins l'histoire, même sans avoir vu le film. Et moi, ce qui m'avait frappé, en fait, en plus de cette histoire-là, c'est la qualité de son atmosphère. Il y a quelque chose dans ce film-là qui est particulier. Et j'ai remarqué, en parlant autour de moi depuis que j'ai démarré ce projet, que plein de gens très différents avaient aussi senti cette chose-là, dans ce film-là en particulier, qui le différencie des autres épisodes de Rambo. Et j'ai mis assez longtemps à réaliser, en fait, un jour, en me promenant en Savoie, dans un paysage qui ressemblait au paysage originel du film, que cette atmosphère venait du paysage de Rambo. Et qu'en réalité, le paysage était probablement un des acteurs principaux du film. Donc il y a le héros lui-même, il y a le policier, etc. Et le paysage joue un rôle important, peut-être même le premier rôle. Pour vérifier cette intuition, j'ai eu plusieurs hypothèses, mais celle qui m'a paru la plus intéressante était de redessiner le film, en faire un dessin animé, et de ne pas dessiner ni le personnage principal, ni tout ce qui a trait à l'action. Donc j'ai redessiné en fait les paysages qui accueillent le film de Rambo. Des paysages naturels, donc, qui sont dans les montagnes rocheuses, pas aux États-Unis, mais au Canada. Et donc, le film que vous allez voir est un film qui reprend plan par plan, depuis le premier jusqu'à la fin des 20 minutes, tous les plans du film Rambo, sans en omettre aucun et sans inventer rien du tout, si ce n'est ce qui était caché par l'acteur, par exemple. Donc, on a les champs et contre-champs. Donc, parfois, on a comme ça des allers-retours entre les images qui sont un peu longs parce qu'on voit ce qui était derrière un acteur qui parle, puis après on voit ce qui était derrière l'autre, à nouveau ce qui était derrière le premier, etc. On a toutes ces choses-là, mais ça constitue effectivement, et ça m'étonne en le regardant quand je le réalise, quand on fait l'assemblage des images avec l'animateur, ça constitue une histoire, une narration qui semble se dérouler derrière celle de Rambo, en fait, comme une histoire masquée qui ressurgit par l'absence des personnages. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So we'll madness and free. Of some stranger's hand in a desperate land.
l'exposition Un paysage américain, elle est organisée dans le cadre aussi de la manifestation de 500 ans de la Renaissance et une programmation aussi associée à la deuxième biennale d'architecture d'Orléans.
Effectivement, avec cette installation, on est au carrefour de tout ça d'une certaine manière. C'est-à-dire que bon, avec la biennale d'architecture, on partage le fait de cette construction dont on sent bien qu'elle a un rapport avec l'architecture, alors pas l'architecture contemporaine au sens où on le comprend, c'est-à-dire pas l'architecture qui a par exemple vu naître le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, mais l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire cette architecture de granges et de cabanes qui sont construites à la campagne et qui sont avec lesquelles on partage le mode constructif de la salle de cinéma, les poteaux, les poutres, les charpentes et puis les deux cabanes dans lesquelles nous nous trouvons. Donc il y a cette architecture-là qui est présente. Qui m'intéresse depuis longtemps. Et je crois qu'avec la Renaissance et Léonard de Vinci, alors je ne sais pas si c'est voulu, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé de ça, mais je pense que quand Alain-Julien Laferrière m'a demandé de travailler sur ce projet, pour ce moment-là, il y pensait peut-être, et en tout cas d'autres y ont pensé. On partage ce regard sur le paysage, de la fresque, de la perspective. La culture du paysage en Europe vient de la Renaissance, donc vient des artistes qui étaient les contemporains de Léonard de Vinci. Et cette idée de la fenêtre à partir de laquelle on voit le paysage qui s'organise comme un tableau, qui est au cœur de notre perception du paysage, est celle aussi qui est au cœur de la conception d'un diorama. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a des relations qui ne peuvent pas être qu'un hasard, mais dont je ne suis pas l'auteur, pour le coup.
Alors j'invite tous les Tourangeaux à venir visiter cette exposition qu'on peut voir de l'intérieur, donc il y a le film, et puis une grande construction avec une cabane, comme vous l'avez expliqué, et aussi l'extérieur. C'est intéressant de la voir de nuit jusqu'à...
Toute la nuit. Les Toute lumières la nuit. Ne s'éteignent jamais. Ça faisait partie du programme, c'est-à-dire concevoir quelque chose qui soit visible dans la ville d'une manière, avec une disponibilité complète et qui soit aussi riche que ce qui est visible de l'intérieur. Donc c'est totalement différent. C'est pas du tout la même chose de voir le film, voir l'installation depuis le diorama ou de le voir à travers les vitres. Mais chacun de ces trois postes d'observation vaut les autres.
Et alors, il y a une programmation associée aussi dans le prolongement de cette exposition. Il y a une programmation culturelle avec des rendez-vous. Alors, le jeudi 28 novembre à 18h30, il y aura une conférence de Gilles Rion sur les liens entre art plastique et architecture. Vous serez présent ?
Oui, en général, je serai présent à tout. Alors, moi, je n'ai pas le calendrier complet. Élodie Stroquette s'occupe de tout pour moi. Enfin, je ne suis pas Tourangeau, mais quand on crée une installation de cette ampleur et quand on a cette disponibilité dans une institution, on n'est effectivement pas tenu, mais intéressé pour participer à toutes les rencontres.
Vous avez construit votre cabane, donc vous savez où dormir.
Non, c'est une cabane qui est sans plancher, c'est un vrai diorama, c'est-à-dire qu'en réalité, nous n'avons construit que ce que nous voyons. Il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de toit, quand on ne voit pas le toit, il n'est pas fait.
Il y a aussi des ateliers de la nef pour les enfants, donc ça va les intéresser, les cabanes.
Oui, donc la partie diorama, c'est la partie dans laquelle on voit la complexité de l'installation, c'est aussi l'atelier pédagogique, et c'est le lieu dans lequel les équipes du CCCOD reçoivent les enfants et travaillent avec eux, et je pense qu'on est dans un lieu crucial du...
Un grand merci Alain Blex d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Au revoir.